OK. Donc, oui, aujourd'hui, nous allons parler de l'Église. En gros, comment ça va se passer? Suite à la discussion que j'avais eue avec Benjamin, j'ai vraiment mixé les deux, la partie message et la partie activité. Donc, ça va vraiment être interactif. Ce sont des questions auxquelles on va répondre au fur et à mesure et avec lesquelles on va former le message tranquillement, pas vite. Donc, je vais nous demander de prendre un peu la feuille que j'ai imprimée, qui s'intitule l'Église. Dans Matthieu 18, verset 20, il est écrit, « Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Apocalypse 19, verset 7 à 9, « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. » Et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Éphésiens 5, versets 25 à 27. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de paraître devant lui cette Église, afin de faire paraître devant lui, autant pour moi, cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Et je posais une question juste après qui disait, en se basant sur ces références, qu'est-ce que l'Église? La Bible dit, là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je demeure au milieu d'eux. L'Église, ce n'est pas un bâtiment. L'Église, ce n'est pas une entité. L'Église, ce n'est pas l'Église catholique, l'Église protestante, l'Église de Benjamin, l'Église de Romuald, l'Église d'Alex. Non. L'Église, c'est là où deux ou trois personnes sont réunies au nom de Jésus. L'Église, c'est, dans Éphésiens 5, 27, c'est l'épouse de Christ. Et comme j'aime bien le faire remarquer, dans ce verset, c'est écrit « Comme Christ a aimé l'Église », pas avec S. « Comme Christ a aimé les Églises », ce n'est pas ce qui est écrit. Comme Christ a aimé l'Église. Et j'aime bien insister sur les mots parce que la Bible n'est pas le fruit du hasard. On est d'accord? Chaque mot qui est utilisé, oui, des fois il faut le remettre dans son contexte pour vraiment comprendre ce que ça veut dire. Mais ça nous montre que dans son design, Dieu a pensé à une Église. Il n'a pas pensé à une multitude d'églises de Dieu. Il n'a pas pensé à une multitude d'églises de Christ. Il a pensé à l'Église qui est l'épouse de Christ. Et comme on blaguait tantôt, Christ n'est pas polygame. Il n'a pas plusieurs femmes qui s'appellent les Églises. Non, il n'en a qu'une pour laquelle il a versé son sang. Et c'est de cette Église que nous allons parler. L'Église catholique, telle qu'on l'entend aujourd'hui, c'est une organisation qui s'appelle Église catholique. De la même manière que moi, aujourd'hui, je peux me lever, créer ma propre entreprise, que j'appellerai l'Église des informaticiens, et puis créer mon manuel que j'appellerai la Bible des informaticiens, ça n'en fera pas plus que c'est la Bible dont on parlerait dans mon entreprise, qui est la Bible. Ça ne fera pas plus que l'Église des informations et des informaticiens, qui est une compagnie où on développe des logiciels, est devenue l'Église de Dieu. Non, c'est juste des mots que j'ai employés d'une manière que je ne devrais pas. Et l'Église de Christ dont il est question, c'est là où deux ou trois personnes sont réunies pour Dieu. C'est l'ensemble de toutes ces individualités qui ont accepté de choisir, qui ont accepté de suivre Jésus comme sauveur et maître. Et c'est ça l'Église de Dieu. Ce n'est pas le nom que l'on donne. Ce n'est pas la manière dont l'homme a décidé de la redéfinir. C'est la manière dont Dieu, dès le commencement, l'a défini. Et c'est la première chose sur laquelle j'aimerais insister avant de commencer, parce que pour aller loin, qui veut aller loin ménage sa monture. Mais quand tu veux aller loin avec des personnes, il faut que vous vous entendez déjà sur quel moyen de déplacement vous allez utiliser. Et dans ce cas de figure, l'église dont il est question, c'est vraiment cette assemblée, ce regroupement de tous ceux qui s'appellent chrétiens. Bon, aujourd'hui, c'est tellement difficile de juste dire ça de même, mais tous ceux qui sont acceptés, qui ont reçu Jésus comme sauveur personnel et maître, et qui vivent en communion personnelle avec lui chaque jour de leur vie. Et c'est cet ensemble, cette communauté de personnes qui forment l'Église. J'ai tendance à souvent faire la part des choses entre l'Église et les assemblées. Aujourd'hui, on parlerait plus de assemblée, si on désigne la congrégation qui se réunit à Québec, sans chemin Sainte-Foy. On parlerait plus d'assemblée si on parle de la congrégation qui se réunit à 70 grandes allées. C'est comme ça, moi, je le décrirais. C'est plus les mots que j'emploierais pour parler d'un et l'autre. Mais l'Église en elle-même, elle reste la communauté, l'ensemble de personnes qui travaillent pour Dieu. Et j'avais posé une deuxième question où je nous demandais de donner quelques exemples d'Église. Et je demandais pourquoi. Quelques exemples d'Église, ça rejoint un peu ce que je disais tantôt. On serait tenté à dire l'Église de Montréal, l'Église de Québec, l'Église de Paris, l'Église de Moscou. Mais non, une fois de plus, je veux juste insister une deuxième fois là-dessus. Ce ne sont pas des exemples. Il n'y a qu'une Église. Plusieurs assemblées, plusieurs communautés, ou si je veux utiliser le mot tel qu'on l'utilise aujourd'hui, plusieurs églises qui sont en fait les bâtiments, parce que c'est plus comme ça on le définit aujourd'hui. Mais ça n'en fait pas plus que l'église, c'est l'assemblée de Dieu. La troisième question que je posais, et là c'est plus, beaucoup plus pour orienter avec The Bridge, faire le lien entre l'église et le projet La Brèche, The Bridge. 1 Corinthiens 12, 12 à 14. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Et là, je vais vous poser une question. Comment comprends-tu les versets cités ci-dessus vis-à-vis de l'Église? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait répondre en parlant assez fort pour que ça enregistre?
Moi, j'aime beaucoup ce verset-là. Merci de l'avoir choisi. Mais il y a quelque chose que je crois, en tout cas que je crois moi personnellement par rapport à ce passage-là qui est souvent mal compris.
Ouais.
C'est que souvent on parle de membres d'une assemblée. Mm-hmm. Puis souvent avec le concept des églises ou de l'église qui est véhiculée aujourd'hui, on applique souvent à ce verset-là l'idée qu'un de ces membres-là de l'Église totale mm-hmm. serait un mouvement de l'Église mm-hmm. ou un regroupement d'assemblée. Mm-hmm. Puis moi, je vois pas du tout ça dans ce texte-là. Mm-hmm. Donc, je considère vraiment que chaque individu est un membre mm-hmm. de cette Église-là universelle. Mm-hmm. Ouais. Donc, je ne ferai pas de regroupement de membres mm-hmm. attaché à un membre, tu sais, comme...
Ouais, je vois ce que tu veux dire.
Je crois que ça, c'est un des problèmes d'interprétation de ce texte-là et d'utilisation.
Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait rajouter de quoi par rapport à ce verset?
Ben, ouais. Ben, si c'est aussi, on voit aussi que ça ne dépend pas de notre origine, ni de notre état civil, état de travail, esclave libre, grec, juif. Donc, il n'y a pas ces limites-là dans le corps de l'Église.
Ce que je vais faire alors, c'est qu'on va parcourir les trois questions et après, je vais pouvoir speecher plus. Question 2B, je disais, comment illustrerais-tu ce passage ici à Québec? Je pense que tu as aussi répondu à cette question quand tu disais que toi, tu vois ça comme si c'est pas comme que je suis une partie d'un membre qui est fait partie d'un c'est ensemble. Ça. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à dire par rapport à ça? Après, je vais pouvoir parler plus. Non? OK. Troisième question. Comment qualifierais-tu ta place à la vue de cette référence? Pareil, je pense que tu as répondu aux trois questions déjà, toi. En tout cas, c'est pour ça que je veux faire de même. Plutôt que de ça m'arrêter plusieurs fois, je vais passer en une fois. Ce que j'avais à cœur de partager au travers de ce verset, c'est comme je le disais un peu tantôt, l'Église, c'est la communauté de toutes ces individualités. En fait, c'est ça que je trouve un peu, c'est ça que je trouve encore, ben je suis, vu que moi je suis en informatique et tout, j'aime des fois utiliser des mots de même. C'est, l'Église, c'est l'unité de ces unités. En quelque sorte, c'est l'ensemble de ces uns qui forment le un. C'est ça l'Église. Le verset dit, comme le corps est un et a plusieurs membres, comme les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Et ben, je suis béni de te l'entendre dire, l'Église, c'est justement ça. C'est ces ensembles d'individualités, quelle que soit l'assemblée dans laquelle on communique, parce que c'est le même esprit qui fait que ces unités deviennent la seule unité. L'Église, ben, en fait, tu m'as un peu... J'aurais pas dû te laisser parler. La prochaine fois, je vais réfléchir à qui je désigne. L'Église, en fait, c'est vraiment ça que je trouve génial dans l'Église. C'est que, quelle que soit la place où je suis, je fais partie de la même individu, de la même unité. Quelle que soit la dénomination que, bon, chemin faisant, je finis par m'attribuer, je fais partie de cette même unité. Et ce que je voulais ressortir par ce verset, c'est exactement ce que Benjamin disait tantôt, c'est que quand je prends le cas, quand je ramène plus à la brèche, l'Église, en fait, c'est moi, toi, lui, quel que soit l'endroit où je suis. C'est moi, toi, lui, qui exprime, comment je vais le dire, mes potentialités là où Dieu m'a placé. Parce que chaque chose que je fais, c'est pour un intérêt général, un intérêt un peu plus global. Quand je demandais comment illustrerais-tu ce passage ici à Québec, la manière dont je le voyais quand je prends le cas de la brèche, c'est que, un peu comme on a commencé avec le club des arbres, c'était des individus d'assemblées différentes qui travaillaient pour un même objectif. C'est juste que c'est un peu en pause. C'est des individus d'assemblées différentes qui avancent dans la même direction. Et c'est ça qui est merveilleux, en tout cas, que je trouve merveilleux avec le corps de Christ. Le corps de Christ est tellement grand qu'il a la capacité de pouvoir couvrir toute la planète en même temps, parce que toutes ces individualités, tous ces individus, Dieu, dans sa grâce, a permis qu'on se retrouve sur tous les continents, qu'on puisse couvrir toutes les classes sociales, qu'on puisse couvrir toutes les races, qu'on puisse couvrir tous les corps de métier avec le même but. Travailler ensemble pour être cette unité. Et j'aime souvent prendre l'exemple du corps parce que Le corps, c'est, je trouve, le corps humain, le corps de n'importe quel animal, en tout cas, ce qu'on appelle un corps, même dans une entreprise, c'est plusieurs entités qui ne forment qu'un. Quel que soit leur background, quelles que soient leurs compétences, parce qu'ils ont un seul objectif et ils veulent aller tous dans la même direction. Je vais dans le cas d'une entreprise, je prends mon cas de figure. Des fois, nous avons des réunions de travail assez passionnées, assez mouvementées, où chacun exprime de la bonne manière ou pas ce qu'il pense. Mais cela n'empêche que, si je vole l'expression anglaise, à la fin de la journée, la décision qui sera prise sera adoptée par tout le monde. Parce que toutes ces entités travaillent pour le même objectif. Ils ont peut-être des manières différentes de voir les choses. Ils ont peut-être des manières différentes de faire les choses, mais ils avancent dans une même direction. Et il en va de même de l'Église. Aujourd'hui, on a tendance à vraiment voir l'Église comme des groupes séparés qui se croient des fois meilleurs que d'autres, comme des groupes séparés qui pensent avoir mieux compris d'autres choses que d'autres. Des fois, c'est vrai. Mais on n'a pas souvent le réflexe de se voir comme des membres qui se complémentent les uns aux autres. On n'a pas forcément le réflexe de le voir comme des groupes, si je veux garder l'expression groupe, qui ensemble forment une organisation. Un peu comme dans une entreprise, on a le département d'informatique, on a le département de comptabilité, on a le département de whatever. Mais c'est ensemble, tous ces départements mis ensemble qui font la compagnie machin chouette. Et malheureusement, cette manière de penser, souvent ça s'arrête aux portes de la vie spirituelle. Il y a plein de choses qui s'appliquent dans le monde qui ne s'appliquent pas à Dieu. Bizarrement, ça c'est le truc que je trouve génial avec la vie chrétienne. Il y a plein de choses qu'on comprend dans le monde et qu'avec Dieu c'est un peu plus difficile à comprendre. Mais c'est exactement la même chose. Le département d'informatique, ils sont bons pour réparer les équipements électroniques, ils sont bons pour gérer les bases de données, pour créer des logiciels. Oui, le Seigneur, Dieu peut, dans sa grâce, avoir béni l'assemblée avec un don de guérison, ou à chaque fois qu'il prie, quelque chose se passe. Dieu peut avoir béni l'assemblée avec un don, quand il loue, que tu crois en Dieu ou pas, quand tu les entends, tu t'assois et tu dis gloire à Dieu. Dieu peut avoir béni une assemblée où le pasteur, quand il parle, j'ai été à Times Square, l'église de Times Square, le pasteur, il ne parle pas fort, hein? Il parle tranquille. Wow. Et c'est comme si, wow, il ne parle pas fort, hein? Il est du genre, en plus en anglais, tu vois, en anglais, ça, c'est bizarre. En tout cas, moi, je trouve en anglais, des fois, ça, peut-être parce que je suis francophone, ça rajoute un petit truc. Tu es juste, wow, tu écoutes, et tu en veux davantage. C'est pareil, en fait. Dieu, dans sa grâce, peut avoir, comme c'est écrit, distribué les talents dans toutes ces assemblées qui forment son corps. Mais nous, en tant qu'Église, notre rôle, c'est justement de pouvoir se complémenter pour travailler ensemble. L'Église n'est pas des îlots avec leur propre gouvernement ou chacun, un peu comme le Canada, où chaque province fait un peu ce qu'il veut et le gouvernement décide quelque chose et éventuellement on verra un jour. Mais ok, ma province fait de cette manière, ça c'est quelque chose de toujours, quand je regarde comment ça marche aux États-Unis, au Canada, où il y a des gouvernements, il y a des provinces, il y a le fédéral, et puis les États peuvent décider de voter une loi qui contredit ce que le gouvernement du pays a décidé. Non. L'Église, ce n'est pas ça. Que je suis ma province, la province protestante, et puis Dieu a décidé quelque chose, éventuellement, peut-être, il faut qu'on se mette déjà d'accord sur ce que Dieu a décidé. Mais en attendant, nous, on a voté nos propres lois et on suit nos lois. Non. Et si, éventuellement, on a fini de régler notre problème, on va aller voir ce qui se passe mal dans la province d'à côté pour leur donner un coup de main. Non. Ce n'est pas ça, l'Église de Dieu. L'Église de Dieu, c'est toutes ces groupes d'unités qui ensemble forment le corps, chacun avec ce talent particulier que Dieu lui a donné. chacun avec cette prédisposition que Dieu lui a donnée, chacun avec ce désir de pouvoir exprimer ce que Dieu aimerait pouvoir faire au travers de lui. Un peu plus tard, un peu plus loin dans les versets, je n'ai pas mis toute la référence, c'est écrit que de ne pas, je paraphrase, hein, c'est écrit de ne pas mépriser les membres de moindre honneur. Tout ça pour insister sur le fait que une assemblée ne peut pas se juger plus bonne qu'une autre. Une assemblée ne peut pas se glorifier du fait que toutes les guérisons dans la ville de Québec passent par nous. Et tous les problèmes viennent de l'autre. Non, une assemblée ne peut pas se glorifier du fait que nous on grandit, mais les autres églises, si j'emprunte le mot tel qu'on l'utilise aujourd'hui, les autres assemblées, c'est juste le péché qui... Non. L'Église de Dieu, c'est que moi, je suis d'une assemblée. Je connais le frère Benjamin qui me dit que dans leur assemblée, il y a peut-être un problème, le pasteur a fait je ne sais pas trop quoi. L'Église de Dieu, ça devrait m'attrister. Ça devrait susciter en moi le désir de prier pour cette assemblée parce que ce sont des frères et sœurs qui font partie du même corps que moi. Et la Bible dit, lorsqu'un membre va mal, c'est tout le corps qui va mal. Oui, l'assemblée bidule. J'ai plus d'autres mots, c'est pour ça que j'utilise bidule. L'assemblée de Montréal se porte mal, mais nous, à Québec, on grandit tous les jours. Gloire à Dieu. Non. L'assemblée de Montréal se porte mal, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le corps de Dieu. Il faudrait qu'on... Techniquement, l'Église de Dieu, c'est comme ça qu'on est censé fonctionner. L'assemblée de... Je me rappelle encore l'année dernière, oui, il y a 2 ans, dans notre assemblée, on manquait de joueurs d'instruments de musique. On utilisait un djembé. Et je me rappelle encore, je crois que c'est Benjamin ou Alex, l'un des deux nous avait dit, « Oh, si vous voulez, on connaît telle assemblée où ils ont des musiciens, ils en ont tellement que ce n'est pas tout le monde qui fait partie de la chorale parce qu'à un moment, il a fallu qu'on on empêche. Si vous souhaitez, on peut demander s'il y en a qui pourraient être disponibles pour venir jouer, louer avec vous les dimanches. » Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment très thoughtful. Comment tu dis ça en français?
Quoi?
Thoughtful.
Attentionné.
Quelque chose que j'ai vraiment trouvé attentionné et qui devrait davantage se manifester dans l'Église de Dieu. La dernière question, c'est comment qualifierais-tu ta place à la vue de cette référence? En tant que chrétien, justement, notre place, c'est oui, de servir là où Dieu nous a placés, parce que géographiquement, Dieu nous a quand même placés quelque part. Mais de quand même avoir à cœur tous ces frères et sœurs qui font partie de la même famille que nous. Et c'est dans ce sens, en fait, que la brèche a son sens, a sa place dans l'Église aujourd'hui. On devrait, si je paraphrase Jérémie 22, verset 30, Dieu dit quoi? Qu'il parcourt la place à la recherche d'une personne pour pouvoir sauver tout un ensemble. On devrait davantage avoir cette place de cette personne qui intercède, qui a pour seul objectif de contribuer à l'épanouissement du grand nombre. En tant que chrétien, un instant, je vais voir si je ne réponds pas à d'autres questions que j'avais posées en bas. On va lire Actes 2, versets 44 à 47. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie, avec et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Le passage ci-dessus décrit l'attitude des premiers chrétiens. Que partageaient ces premiers chrétiens? Si on fait une réponse simple, on dirait qu'ils vendaient leurs biens, ils partageaient tout. Mais si on cherche plus dans le détail, toutes ces personnes, ils partageaient Christ. C'était lui qui les avait mis ensemble. C'était lui qui les poussait à même penser, vendre leurs possessions pour subvenir aux besoins de d'autres. On est d'accord que si ma vie va... En fait, au soccer, on a une expression, je ne sais pas si ça s'applique partout, on ne change pas une équipe qui gagne. OK. Ma vie va bien, pourquoi je vendrais mes biens? Non. Tout va bien, on ne change pas une équipe qui gagne. Quand j'aurai des problèmes, je vais commencer à penser à des solutions. Mais là, on voit que l'attitude de ces personnes était différente. Juste après avoir été baptisés, avoir été sauvés, ils se mettaient tous ensemble. Ils avaient délibérément, volontairement, ils décidaient de vendre de quoi, de partager selon les besoins de chacun. Et l'Église de Dieu, c'est pareil. Dieu nous bénit de différentes manières. Et notre objectif principal serait justement d'agir comme il faisait. Que pensez-vous de cette attitude, je demandais. De pouvoir mettre à disposition ce que Dieu nous a donné pour toute l'Église. La brèche, justement, si tu m'arrêtes, si je raconte des conneries. Mais c'est justement notre position en tant que chrétien. Aspirer davantage à nous mettre... Bien sûr, on est humain, donc on est d'accord qu'il y a des limites dans ce que je dis. Je préfère le préciser, il ne faut pas mal me comprendre. On est humain, où il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Notre propre corps, des moments, nous rappelle juste que calme-toi, tu ne peux pas faire tout ce que tu veux. Vas-y avec la sagesse de Dieu. Mais Dieu nous invite à justement nous mettre à disposition de tout son corps. Ça, c'est quelque chose qu'au départ, j'ai trouvé assez impressionnant quand il me disait que de chaque dimanche, il était à telle assemblée, ensuite il allait à telle assemblée, avec le seul désir de pouvoir identifier quel était le besoin de cette assemblée et de voir, selon ses possibilités, comment il pouvait y répondre. Je précise, je rappelle, oui, Dieu nous met géographiquement quelque part, on ne peut pas tout faire. Mais le même Dieu permet que dans notre vie de chrétien, on est amené à croiser d'autres personnes qui sont géographiquement ailleurs. Et dans sa grâce, il nous permet, en fonction des capacités qu'il nous donne, de pouvoir agir comme eux, de pouvoir vendre, je ne vous demande pas d'aller vendre vos autos, si vous les vendez à 10$, je pourrais les acheter et vous pourrez les distribuer si vous voulez, mais ce n'est pas ce que je demande. Mais en fonction de ce que Dieu réalise dans nos vies, il nous donne la possibilité justement de pouvoir nous rendre disponibles pour ses autres frères et sœurs, pour cette famille, pas éloignée, parce que c'est le même esprit, ce n'est pas le cousin du cousin de la cousine, non, c'est la même famille, c'est les frères, c'est des sœurs qui vivent juste peut-être 100 kilomètres plus loin. Mais le Seigneur permet que dans notre vie chrétienne, qu'on puisse avoir ce genre d'opportunité où nous pouvons nous rendre disponibles, où nous pouvons juste contribuer à l'avancement, contribuer à l'œuvre de Dieu. Et ce que je trouve vraiment intéressant, j'ai posé la question. Oh non, je ne l'ai pas posé. Quelle en était la principale conséquence? La question numéro C. Désolé. Quelle en était la principale conséquence de tout ce qu'ils faisaient?
Est-ce grâce. Que... grâce auprès de tous les peuples. Et le Seigneur ajoutait chaque jour.
C'est ça, la principale. Le Seigneur ajoutait... Regardez ce qui est écrit. À l'Église.
Oui.
Ceux qui... était sauvé.
C'est le Seigneur, hein?
C'est le Seigneur qui ajoutait à l'Église, pas aux Églises, pas à la communauté de Samarie, pas à la communauté de Pierre, Paul, Jacques, machin. À l'Église, ceux qui étaient sauvés. Et des fois, il est juste triste de se rendre compte que nous sommes à la source de notre propre échec. Nous sommes la raison de notre propre échec. Parce que tout ce qu'on fait, malheureusement, c'est plus des divisions que de la collaboration. C'est plus du repli sur soi que de l'ouverture. En tant que chrétien, en tant qu'église, c'est triste. Mais la Bible dit, Dieu rajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Je ne suis pas Dieu. Je ne vais pas m'accaparer ce titre. Non. Mais des fois, je me dis juste, Dieu se définit comme un père de famille. Supposons, je suis un père de famille. Je me pose souvent cette question par rapport à ma propre assemblée. Est-ce que moi, si j'étais père de famille, est-ce que j'enverrais volontairement mon enfant dans tel endroit, si je l'aime? Je ne parle pas forcément de mon assemblée, mais je parle de l'Église de manière générale. Quand je vois les divisions, quand je vois que l'un se croit meilleur que l'autre, quand je vois que l'autre, je l'ai béni avec tel truc, et tout ce qu'il fait, c'est pour le garder pour lui-même, plutôt que d'en faire bénéficier le monde. Qu'est-ce que j'ai à gagner de juste augmenter le nombre de fauteurs de troubles? Simplement, quel avantage j'aurais à gagner en tant que père de voir que, bon, j'ai été béni, j'ai plusieurs entreprises, mais je constate que à chaque fois que j'envoie un de mes enfants pour travailler dans cette entreprise, il revient pire que je l'ai envoyé et des fois irrécupérable. Qu'est-ce que j'ai à gagner? Ok, laissons les entreprises et puis mes enfants, je trouverai ailleurs pour les mettre. Et c'est ce qu'on devrait comprendre en tant que chrétien. Je crois que nous sommes la raison, des fois, de nos échecs. Oui, c'est vrai. Des fois, le Satan, il aide aussi, il rajoute un peu. Mais Satan ne fait rien sans que Dieu ne lui permette. Et par définition, Dieu aime son Église. Donc Dieu, par définition, ne lui permettrait pas de foutre le bordel dans son Église, sauf si on le lui autorise nous-mêmes. Sauf si nous-mêmes, on dit, bon, on n'a pas vraiment compris ce qu'on fait ici, mais si tu as des suggestions pour garder le désordre tel qu'il est, tu es le bienvenu. Parce que, bon, on ne sait pas trop ce qu'on fout ici, on ne sait pas vraiment ce qu'on doit faire, mais tu as l'air d'en connaître sur le sujet, guide-nous. En tant qu'Église, justement, le travail que nous faisons n'est pas à nous. Dieu désire une chose. Comme Paul, Pierre, Jacques, Jean, Étienne ont pu tous travailler ensemble. Comme les personnes de l'assemblée d'Éphèse ont pu soutenir, c'est Éphèse ou Galate, je ne sais plus trop. Il y a une des communautés qui était vraiment très forte dans le soutien et dans l'appui des autres assemblées partout le monde. Je ne sais plus c'était laquelle. Peut-être, je ne me rappelle plus. Dieu, dans son design, c'est ce qu'il attend de nous en tant qu'Église. Que nous puissions effectivement travailler ensemble. Que nous puissions effectivement collaborer. Que nous puissions effectivement arrêter de nous diviser nous-mêmes, parce que la parole de Dieu ne nous divise pas. C'était écrit dans 1 Corinthiens 12, 12-14, que c'est le même esprit, que c'est le même corps. Toutes les divisions qui viennent, viennent de nous. Elles ne viennent pas de Dieu. Dieu, dans son design, c'est que nous puissions avancer ensemble. Et ce que je trouve merveilleux, justement, dans la Bible, c'est ça. Jésus, il envoyait les apôtres deux à deux, afin que lorsque l'un tombe, l'autre le relève. Si, dans ma sagesse humaine, j'ai décidé de me replier sur moi-même, si je tombe, je resterai par terre. Et la Bible dit que un troupeau qui se fait conduire par des aveugles, ils ne vont pas bien loin. Ils ne vont pas bien loin. Ou un borgne qui conduit des aveugles, ils iront là où son seul œil lui permettront d'aller. La Bible nous donne plusieurs exemples où Jésus même nous montre comment nous devons travailler ensemble. Ça arrive. Un pasteur aussi bien intentionné qu'il est, un homme de Dieu, ça arrive, peut tomber. Si malheureusement c'était la tête du groupe, c'est que la chute va être retentissante pour tous les followers. Le design de l'église, c'est justement ça. Un pasteur, malheureusement, hein, je trouve, en tout cas, vous m'arrêtez si je me trompe, mais malheureusement aujourd'hui, un pasteur qui tombe, la seule personne qui peut lui faire un reproche, c'est un pasteur qui est au-dessus de lui. C'est incroyable. C'est un pasteur de la même assemblée, de la même dénomination, du même regroupement de machin, truc bidule, qui est au-dessus de lui. C'est tout. Et encore, ça demande que lui aussi soit bien homme, parce que des fois, c'est plus « je te donne un ordre et tu obéis ». Aujourd'hui, c'est rare de voir que telle assemblée a un pasteur qui commence à dévier et qu'un autre pasteur vienne simplement le voir pour « mon frère, parce que tu es mon frère, tu faisais l'œuvre de Dieu. En tout cas, au début, je t'ai vu faire l'œuvre de Dieu. Ce que c'est devenu, je ne sais pas. Je crois que tu te trompes. Dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, ça, c'est impossible. Oh, tu te prends pour qui? Dieu m'a béni. Regarde mon assemblée. Oh. Ok. Moi, je te disais juste que ce que tu faisais, c'était pas correct. Aujourd'hui, dans l'église de Dieu, c'est ce qui se passe. Nous avons des personnages, nous avons des célébrités, nous avons des entités, nous avons des regroupements qui sont souvent partis avec la parole de Dieu, que Dieu a béni, on voit dans la Bible que Saül au départ, il n'a pas été élu parce que le peuple a fait un vote et puis il a été élu. Non, il a été oint. Raison pour laquelle David n'a jamais osé poser la main sur lui. Il a dit c'est loin de l'Éternel. Et on a vu comment tout ça s'est terminé. L'Église de Dieu, ce n'est pas ça. Ce n'est pas cette division que nous voyons aujourd'hui. L'Église de Dieu, c'est des assemblées, comme je l'ai dit plusieurs fois, qui travaillent ensemble afin de pouvoir ramener les brebis à la bergerie, afin de pouvoir supporter aussi les frères qui vont vers la perdition. Parce que oui, il n'y a pas que des pécheurs dans le monde, il y a aussi les chrétiens qui sont là, il faut aussi s'en occuper. Des fois, on parle beaucoup du monde, mais il y a aussi des gens qui sont déjà là, il faut aussi que quelqu'un s'occupe d'eux. L'Église de Dieu, c'est ça. Je demandais dans la question D, comment cela peut-il s'appliquer à l'Église de Dieu? Dans un monde parfait, c'est que partout où tu passes et tu entends parler d'un frère, tout ce que tu as à cœur, c'est de pouvoir le connaître, de pouvoir connaître ses besoins, de pouvoir savoir comment tu peux prier pour lui, de pouvoir savoir comment tu peux contribuer à ta façon, selon tes capacités, à ce que Dieu lui met à cœur de faire. Dans le monde parfait, c'est qu'à chaque fois que Dieu te met un projet à cœur, c'est que tu ne cherches pas forcément la solution que dans ton assemblée. Ou que tes pasteurs ne te demandent que de chercher la solution dans ton assemblée. C'est que dès que tu soumets un besoin, l'appel est lancé à tout le monde. Un peu comme si on prend l'exemple de la technologie. Des fois, je cherche des choses. Ok, du genre, je suis bloqué au boulot, je veux faire une fonction bizarre et tout, ça ne marche pas. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je vais sur Internet. Et je dis, how to, et il y a un Chinois qui a eu le même problème et qui a la réponse. Il y a un Russe qui a eu le même problème et qui a la réponse. Il y a un Béninois qui a réussi à se connecter sur Internet et qui a eu la même réponse et qui l'a posté. Non, ça c'est une joke. Mais c'est justement ça, la manière dont cela peut s'appliquer. C'est pour ça que je disais tantôt, il y a beaucoup de choses que nous faisons naturellement dans le monde, mais qui malheureusement restent dans le monde. En fait, la manière dont ça peut s'appliquer, c'est Dieu m'a mis à cœur de faire quelque chose. Et bon, dans mon assemblée, je me rends compte que ce que Dieu m'a mis à cœur n'a pas vraiment sa place, vu que ça marche déjà. OK. Et comme par hasard, il y a un frère qui vient me dire, « Oh, dans notre assemblée, on a tel besoin. » Je ne demande pas de quitter ton assemblée. Non. La manière dont ça pourrait s'appliquer, c'est, « Ah, ça tombe bien. Le Seigneur m'a mis à cœur de faire ça. Comment je pourrais t'aider à régler ce problème dans ton assemblée ?» Ça ne demande pas de commencer, « Oh, je... » communication et tous ces mots qu'on aime utiliser. Non. Comment je peux contribuer à fixer, à faire avancer les choses dans ton assemblée. Il y a plein d'autres exemples, comme l'exemple que je donnais tantôt. Je sais jouer de la musique. Par la grâce de Dieu, j'entends parler d'un groupe, d'une assemblée qui est peut-être naissante et qui ont besoin de musiciens. Avec mon pasteur, peut-être je m'entends, OK, pendant 2 mois, les dimanches, je ne serai plus là parce que je veux les aider à avancer, donc je vais les aider à pratiquer pour que dans 2 mois, il y ait au moins quelqu'un qui puisse jouer de la guitare. Et comme ça, ils pourront vraiment louer avec le maximum d'instruments qu'ils ont. OK, j'ai à cœur d'évangéliser. Dans mon assemblée, on fait des sorties d'évangélisation, mais il y a déjà tellement de monde que j'arrive jamais à trouver ma place. Oh, j'entends parler de telle organisation, dans tel événement évangélique, d'une assemblée autre, quelconque qui s'appelle comme elle veut, mais qui prêche Jésus-Christ, je précise, mais qui prêche le Jésus dont on parle. OK. Fine, je suis disponible ce jour-là. Si vous avez besoin de moi, parfait. Ou, je n'ai aucun talent particulier. Je sais juste conduire mon auto. Oh, telle assemblée organise de quoi? Ils ont besoin de personnes pour pouvoir conduire, juste conduire. Oh, ils ont juste besoin de personnes pour pouvoir amener des bouteilles d'eau. Oh, ça tombe bien, c'est la seule chose que je sais faire. Good, j'amènerai l'eau. Techniquement, si c'est la seule chose que tu sais faire, techniquement, tu sais faire autre chose que juste amener des bouteilles d'eau, mais c'est dans mon exemple pour que ça fasse, je le dis de même. Mais OK, gloire à Dieu, Seigneur. Ah, tel jour, je serai à telle assemblée avec mes frères et sœurs pour apporter l'eau que je peux apporter. Et c'est vraiment ce que nous devons avoir à l'esprit en tant qu'Église. En se basant sur tout ce qui a été discuté jusqu'à présent, comment l'Église de Dieu peut-elle s'épanouir dans l'accomplissement de sa tâche? Première chose, je crois, savoir ce que c'est que l'Église. Je pense que plein de problèmes vont du fait qu'on est ignorant sur certaines choses. Je donne un exemple simple. C'était au boulot. J'avais quelque chose à faire. J'avais une documentation à lire. Mais j'étais tellement pas envie de lire cette documentation qui était trop grosse que j'ai commencé à faire les choses. Et j'avais plein de problèmes, plein de choses qui ne marchaient pas. Du coup, vu que les choses ne marchaient pas, je me suis dit, vu que j'ai rien d'autre à faire, je vais la lire, la documentation. La réponse était dans la documentation. J'avais l'air vraiment bête quand je suis tombé là-dessus. En gros, j'ai perdu 2-3 jours de travail que j'aurais économisé en lisant juste cette documentation que je ne voulais pas lire. Parce que les réponses s'y trouvaient. Première chose, est-ce qu'on sait ce que c'est que l'Église? Si je crois que l'Église, c'est mon pasteur, je ne travaille pas pour Dieu, je travaille pour mon pasteur. Aussi bien intentionné qu'il soit, hein. Il a peut-être fait des messages et c'est juste moi qui, à un moment, j'ai perdu le fil. Et puis, l'Église, c'est mon pasteur. Dans ce cas de figure, je connais des personnes, dès que tu parles mal de leur pasteur, fais attention, ça peut mal finir. C'est triste, hein? Tu ne peux pas oser remettre en question une parole du pasteur. Oh que non. Sacrilège. On est d'accord que cet individu n'apportera son aide que là où son pasteur lui aura demandé d'aider. Première chose, en tant que chrétien, est-ce que je sais ce que c'est que l'Église? Deuxième chose, ça c'est quelque chose sur quoi je reviens souvent. Pouvoir me connaître moi-même. Je crois que Dieu ne nous met pas dans l'Église juste parce que il n'avait rien d'autre à faire. Et puis, bon, yo, il habite où, Québec? Oh, moi, je te dis, j'ai à côté. Oh, vas-y. OK, next, où? Ah, BC, BC, attends, quelle adresse déjà? Ah, oh, Burnaby, allez, va là-bas. Victoriaville, ah, oh, Victoriaville. Oh, il n'y a pas d'église à Victoriaville, donc je t'envoie à Deltaville. Voilà, allez, next, non. Non, non, ça ne marche pas de même avec Dieu. Quand Dieu te met quelque part, je pense que c'est un peu ta responsabilité de pouvoir, devant Dieu en toute humilité, chercher à comprendre comment tu peux déjà contribuer là où il t'a mis et en plus contribuer à son œuvre en ensemble. La deuxième manière dont on peut justement aider à l'épanouissement de l'accomplissement de la tâche de Dieu en tant qu'Église, c'est cela. Pouvoir être ouvert à tout ce que Dieu te met à cœur de réaliser. Ne pas être fermé à « Ah oui, mais dans notre assemblée, on ne fait pas ça. Dieu, donne-moi autre chose. » Non, non, dans notre assemblée, « Oh non, on ne fait pas ça. Cherche autre chose. » Ça, c'est un peu, quelque chose qui est... Oui, des fois, c'est culturel. Des fois, tu as l'habitude de faire des choses d'une manière. Dieu te met à cœur de faire d'une autre manière. « Ah non, on fait, pas ça chez nous. Chez nous, c'est comme ça. » Et c'est moi, Dieu, c'est censé être moi qui dit comment ça marche. Il y a quelque chose que j'ai raté là. Comment ça, on ne fait pas ça? Pouvoir être ouvert à ce que Dieu te met à cœur et pouvoir aussi être à l'écoute des opportunités. Je reprends l'exemple du monde. Quand tu cherches un boulot, crois-moi, tu es capable de dire tout ce que tu peux faire. Tu es capable de dire si tu peux balayer, tu es capable de dire si tu peux faire la vaisselle, tu es capable de dire si tu peux... Supposons que tu cherches un boulot où tu vas juste être le vendeur, le gestionnaire et tout. Mais s'il y a une opportunité en tant que caissier, oh, mais je sais aussi faire la caisse. Oh non, non, non. Oui, je sais, je veux vendre. Mais ne vous en faites pas, j'ai fait de la comptabilité dans ma vie, je sais ouvrir une caisse, je sais fermer, je sais faire... Je suis... jovial, accueillant, blablabla. Oui, ça marche même dans le monde. C'est de cette manière aussi qu'on peut contribuer à l'accomplissement de la tâche de Dieu. Bah, l'accomplissement de la tâche de Dieu, j'aime pas utiliser ce genre de mots parce que ça fait du genre in the box. Mais c'est de cette manière qu'on peut justement apporter notre contribution à l'Église. En restant ouvert et à l'écoute de ce que Dieu veut réaliser au travers de nous. Et en ne nous fermant pas aux opportunités qui sont ouvertes devant nous. C'est vrai, c'est pas simple. Des fois, il faut connaître ses limites parce que c'est vraiment, vraiment pas simple. Des fois, tu te brûles. Des fois, tu te retrouves à être celui qui fait tout. Des fois, tu en veux même à tout le monde parce que tu ne comprends pas pourquoi le monde ne comprend pas ce que tu as compris. Mais ça fait partie du package. Et la dernière chose, à mon avis, c'est d'apprendre à être humble et à comprendre que dans l'Église de Dieu, tout ce qui va dans les intérêts de Dieu est quelque chose qui ne devrait pas me frustrer. Même si ça, des fois, ça fait mal, même si des fois tu n'aurais pas voulu l'entendre, pouvoir être humble et comprendre que, écoute, nous jouons dans la même team. OK? Ouais. OK. OK. Allons-y. Pourquoi je dis cela? Parce que si le Seigneur m'a mis à cœur d'aider, parce que je crois que ça arrive, Dieu se révèle. Et des révélations sont plus précises que d'autres. Pourquoi? C'est Dieu qui décide. Dieu te met à cœur des fois, il faut que tu ailles faire ça dans telle assemblée. Oui, mais Seigneur, les gars, ils ne comprennent pas ce que je dis. Ils ont décidé que ça ne marche pas comme ça. Parce qu'ils ne sont pas suffisamment humbles pour croire que Dieu t'a vraiment demandé de faire quelque chose dans leur assemblée. Tu es qui? Tu es le pasteur? Non. Tu es le fils du pasteur? Non. Dieu te parle. OK. Ok, bah écoute, on va méditer là-dessus et puis on te reviendra.
Ouais, c'est comme quand tu fais une entrevue, ils disent on va te rappeler.
Voilà, voilà, on va te rappeler. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire ou pas, mais ça on le dit pas. Il faut savoir aussi être humble pour comprendre que cette église, ce n'est pas mon affaire personnelle. Je suis un contributeur, je ne sais pas si le mot se dit de même. Contributeur, enfin, je contribue. Ouais, on va contourner le problème. Je contribue. Je contribue à l'œuvre générale. Et pour pouvoir faire avancer cette œuvre, avec la sagesse de Dieu, bien entendu, je dois avoir l'humilité de pouvoir accepter des choses, recevoir des choses, tout en me laissant guider par l'Esprit, tout en me laissant guider par Dieu. Et c'est un peu ce que je voulais faire en tant qu'activité message, mais ça s'est terminé juste par un message finalement, parce qu'on a quand même beaucoup discuté tantôt par rapport à l'Église. L'Église est un ensemble de chrétiens. L'Église est une, unique. L'Église n'avancera que si on décide de travailler ensemble. En tout cas, elle irait plus vite. Je ne dis pas que l'Église n'avance pas. Non, il y a, Dieu merci, il y a beaucoup de gens qui sont sauvés chaque jour. Ouais, ça, c'est parfait. Quand on parlait tantôt, ce que je lisais dans le journal, ça, c'est une des conséquences des divisions. Parce qu'on ne travaille pas ensemble. Parce que personne n'a pu empêcher cela. Parce que personne, peut-être que le monde a voulu, mais parce que la personne intéressée n'a pas forcément eu l'humilité de recevoir des choses qui lui ont peut-être été dites par le passé. Je connais un frère, je vais taire son nom, qui est vraiment zélé dans l'évangélisation. Quand je dis zélé, il a prêché, beaucoup de gens ont donné leur vie à Dieu suite à son évangélisation, après avoir parlé avec lui et tout. Dieu l'utilisait beaucoup. Et il y a une situation qui s'est présentée. Les pasteurs de l'Assemblée, je dis les, ce n'est pas juste une personne, les anciens de l'Assemblée lui ont fait des recommandations qu'il n'a pas écoutées. Et aujourd'hui, les conséquences sont graves. Aujourd'hui, les conséquences sont graves. En tout cas, c'est des problèmes qu'on aurait pu éviter dès le départ, avec lesquels le monde se retrouve poigné. Et quand je dis des conséquences, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont maintenant embarqués dans les conséquences. Il y a des personnes qui n'ont rien demandé à personne. Parce qu'à la base, cet homme de Dieu, à un moment, certainement perdu le fil. Et au moment où Dieu lui a tendu la perche, une fois, deux fois, trois fois, le manque d'humilité a empêché qu'il puisse se saisir de cette opportunité qui lui est ouverte. Et c'est vraiment ce que je veux partager. En tant qu'Église, notre rôle, c'est de pouvoir s'entraider en humilité, et Jésus est un exemple parfait d'humilité, de pouvoir s'entraider dans l'amour, de pouvoir travailler les uns avec les autres.